Chapitre 6. Mon traitement électrique. Excursion nocturne. Un Oki Furax. Un billet pour le Mountain Express. L'atelier d'électricité de Jacobs se situait à Tulsa West. J'ignore à quoi ressemble ce secteur de la ville aujourd'hui, mais en 1992, c'était une zone industrielle déprimante où la plupart des entreprises paraissaient mortes ou à l'agonie. Jacob s'engagea sur le parking d'une zone commerciale quasi déserte sur Olympia Avenue et se gara devant la carrosserie Otto Wilson. Ce garage était inoccupé depuis longtemps, d'après l'agent immobilier, m'apprit Jacobs. Il portait un jean délavé et un polo bleu. Ses cheveux étaient lavés et peignés, ses yeux pétillaient d'excitation. J'étais nerveux rien que de le regarder. J'ai dû signer un bail d'un an, mais c'était quand même une aubaine. « Bien, suis-moi. Vous devriez retirer l'enseigne et mettre la vôtre à la place. » J'ai mimé un encadré avec des mains qui ne tremblaient qu'à peine. « Portrait à la foudre. C. D. Jacobs, propriétaire. Ça ferait bien. » Je ne vais pas m'éterniser à Tulsa, et les portraits sont juste un moyen de gagner ma vie pendant que je mène mes expériences. J'ai fait du chemin dans la vie depuis mes jours de sacerdoce, mais il me reste encore beaucoup de route à parcourir. Tu n'as pas idée. Entre, Jamie. Entre. Il ouvrit une porte et me précéda dans un bureau dépourvu de tout mobilier, même si l'on apercevait de petits carrés propres sur le linoléum crasseux à l'endroit qu'avaient un jour occupé les pieds d'un bureau. Un calendrier corné, arrêté au mois d'avril 1989, était accroché au mur. Le garage avait un toit en tôle, et sous le soleil de septembre, je m'attendais à ce qu'il y règne une chaleur étouffante. Mais il y faisait merveilleusement frais. J'entendis le murmure de l'air conditionné. Quand Jacobs enclencha une rangée d'interrupteurs, récemment trafiqués, à en juger par les câbles qui s'échappaient au petit bonheur par les trous débarrassés de leurs caches, une douzaine d'ampoules éclatantes illuminèrent les lieux. En faisant abstraction du sol en béton taché d'huile et des cavernes rectangulaires naguère occupées par deux monte-charges, on se serait cru dans une salle d'opération. « Ça doit vous coûter une fortune de climatiser cet endroit, j'ai observé, surtout avec toutes ces ampoules qui chauffent. »« Rien du tout. Les climatiseurs sont de ma propre invention. Ils consomment très peu d'énergie, que je produis pour l'essentiel moi-même. Je pourrais produire toute mon électricité, mais je ne voudrais pas voir la Tulsa Power and Light débarquer pour mettre son nez dans mes affaires et voir si je ne suis pas en train de pirater leur réseau. Quant aux lumières, tu pourrais prendre une de ces ampoules dans la main sans te brûler, sans même que ça te chauffe la peau d'ailleurs. » Nos pas résonnaient dans tout cet espace vide, nos voix aussi. C'était comme être entouré de fantômes. « C'est l'impression que ça te fait parce que t'es un vieux drogué à cran, » je me suis dit. « Dites, Charlie, vous êtes pas en train de trafiquer avec de la radioactivité, hein ?» Il grimaça et secoua la tête. Le nucléaire est bien la dernière de mes préoccupations. C'est l'énergie des imbéciles, une impasse. Comment vous faites pour avoir du jus alors? L'électricité génère l'électricité, si on sait comment s'y prendre. Restons-en là. Approche, Jamie. Il y avait du matériel électrique posé sur trois ou quatre longues tables au fond de la pièce. Je reconnus un oscilloscope, un spectromètre et deux trucs qui ressemblaient à des amplis Marshall, mais qui auraient pu être des genres de batteries. Il y avait un tableau de commande qui paraissait en grande partie démonté et plusieurs consoles, écrans noirs, empilés. De gros câbles électriques serpentaient dans tous les sens. Certains disparaissaient dans des caissons métalliques qui auraient pu être des caisses à outils Craftsman. D'autres formaient simplement un circuit fermé avec l'installation électrique éteinte. Tout ça pourrait très bien n'être qu'un délire, je me suis dit. Une installation qui ne s'allume que dans son imagination. Mais les portraits à la foudre étaient bien réels. Je n'avais aucune idée de la façon dont il s'y prenait. Son explication avait été « on ne peut plus vague », mais le résultat était le même. Et j'avais beau me tenir pile sous l'une de ces ampoules éblouissantes, je ne sentais aucune chaleur s'en dégager. « Ça ressemble pas à grand-chose », lui fis-je remarquer d'un ton sceptique. Je m'attendais à plus. Des lumières clignotantes, des tableaux de bord avec des interrupteurs à couteaux chromés sortis de films de science-fiction, des télécrans à la Star Trek, Peut-être une salle de téléportation ou un hologramme de l'Arche de Noé dans une chambre à brouillard. Il rit gaiement. « Rien de tel, lui dis-je, même s'il avait clairement tapé dans le mille. C'est juste que ça me paraît plutôt spartiate. » Ça l'est. Je suis allé aussi loin que je le pouvais pour le moment. J'ai vendu une partie de mon matériel. Il y a d'autres éléments, plus sujets à caution, que j'ai démontés et stockés. J'ai bien avancé ici, à Tulsa, surtout si l'on considère le peu de temps libre que j'ai. Arriver à joindre les deux bouts est une tâche plutôt pénible, comme tu dois le savoir. Effectivement. Mais oui, on peut dire que j'approche de mon but ultime. Maintenant, j'ai besoin de réfléchir, et je ne pense pas pouvoir le faire tout en donnant une demi-douzaine de numéros tous les soirs. Votre but ultime étant... Une fois de plus, il ignora ma question. Approche, Jamie. Voudrais-tu un petit remontant avant de commencer? Je n'étais pas sûr de vouloir commencer, mais je n'étais pas contre un petit remontant. Comme j'en avais déjà eu l'idée, j'envisageais de lui arracher le petit flacon marron des mains et de m'enfuir en courant. Sauf qu'il m'aurait sûrement rattrapé et me l'aurait repris. J'étais plus jeune et presque remis de ma grippe, mais il était quand même en meilleure forme physique. Il n'avait pas eu une jambe et une hanche brisées dans un accident de moto, pour commencer. Il attrapa une chaise en bois éclaboussée de peinture et la plaça devant l'une des boîtes noires qui ressemblaient à des amplis Marshall. « Assieds-toi. » Mais je ne m'assis pas tout de suite. Il y avait une photo posée sur l'une des tables, le genre avec une cale au dos pour la faire tenir debout. Il me vit tendre la main pour l'attraper et eut un mouvement comme pour m'arrêter. Puis il s'immobilisa. Une chanson à la radio peut ressusciter le passé avec une fulgurance féroce, encore qu'éphémère, Dieu merci. Un premier baiser, un bon moment passé avec les copains ou des temps malheureux. Je ne peux jamais entendre « Go Your Own Way » des Fleetwood Mac sans penser aux dernières semaines de souffrance de ma mère. Ce printemps-là, on aurait dit que cette chanson passait à la radio chaque fois que je l'allumais. Une photo peut avoir le même effet. J'ai regardé celle-ci et, tout d'un coup, j'avais 8 ans à nouveau. Ma sœur, Eddie Maury, a installé des dominos dans le coin jouet pendant que Patsy Jacobs jouait « Bringing in the Sheaves » en oscillant sur le tabouret du piano, ses cheveux blonds et souples se balançant d'un côté à l'autre. C'était une photo de studio. Patsy portait le genre de robe princesse à mi-mollet, passée de mode depuis des années, mais sur elle, c'était parfait. L'enfant était sur ses genoux, en short et gilet, en tricot, sans manches. Un épi dont je me souvenais bien se dressait à l'arrière de sa tête. « On l'appelait « Maury, tu nous suis », dis-je, en passant légèrement mes doigts sur le verre. « C'est vrai ?» Je n'ai pas levé la tête. Sa voix tremblante me faisait redouter ce que je risquais de voir dans ses yeux. « Ouais, et nous les garçons, on était tous amoureux de votre femme. Claire aussi d'ailleurs. » Je crois que Mme Jacobs représentait ce qu'elle désirait être. À l'évocation de ma sœur, ce sont mes yeux qui ont commencé à se remplir de larmes. Je pourrais vous dire que c'était juste parce que j'étais physiquement affaibli et terriblement en manque, et ce serait la vérité, mais pas toute la vérité. Du bras, j'ai essuyé mon visage et j'ai reposé la photo. Quand j'ai levé la tête, il était en train de bidouiller un régulateur de tension qui ne semblait pas avoir besoin d'être bidouillé. « Vous ne vous êtes jamais remarié ?»« Non, me dit-il. Loin de moi l'idée. Patsy et Maury étaient tout ce que je désirais, tout ce qu'il me fallait. Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à eux, pas un mois sans que je ne rêve qu'ils vont bien. C'était l'accident, le rêve, je pense. Et puis je me réveille. Dis-moi quelque chose, Jamie. Ta mère, et ta sœur. Tu ne te demandes jamais où elles sont? Si elles sont quelque part? Non. Tout lambeau de foi qui avait pu survivre au terrible sermon s'était définitivement effiloché au lycée et à l'université. Ah, je vois. Il lâcha le régulateur et alluma le truc qui ressemblait à un ampli Marshall, le genre d'ampli que les groupes avec lesquels je jouais pouvaient rarement se payer. Celui-ci ronronna, mais pas comme un Marshall. Le son était plus bas et presque musical. « Bien, mettons-nous au travail, veux-tu ? » J'ai regardé la chaise, mais je ne me suis pas assis. « Vous deviez me donner une petite dose avant. En effet. Il sortit le flacon marron de sa poche, le considéra un instant, puis me le tendit. « Puisque nous pouvons espérer que ce sera ta dernière fois, pourquoi ne fais-tu pas le service toi-même ?» Il n'eut pas à me le dire deux fois. J'ai sniffé deux petits monticules de poudre et me serais resservi s'il ne m'avait arraché le flacon des mains. Dans ma tête, cependant, une fenêtre s'ouvrit sur une plage tropicale. Une brise légère entra, et brusquement, je ne me souciais plus de ce qui pourrait advenir de mes ondes cérébrales. Je me suis assis sur la chaise. Il ouvrit l'une des nombreuses armoires murales et en sortit un casque audio abîmé et scotché, dont les coussinets de protection étaient recouverts d'un fin grillage métallique. Il le brancha à l'espèce d'ampli et me le tendit. « Si j'entends Inagada Davida, je me casse, » lui dis-je. Il sourit, mais ne releva pas. Je mis le casque. Le filet métallique était froid contre mes oreilles. « Vous avez déjà utilisé ce truc sur quelqu'un ?» lui demandai-je. « Ça va faire mal ?»« Ça ne fera pas mal, » me dit-il, ignorant complètement ma première question. Comme pour se contredire, il me tendit un protège-dents, de ceux que portent parfois les basketteurs, puis sourit en voyant mon expression. « C'est juste une précaution, mets-le. » Je me le suis fourré dans la bouche. De sa poche, il sortit un petit boîtier blanc, pas plus grand qu'une sonnette de porte. « Je pense que tu vas… » Mais là, il a pressé un bouton et j'ai perdu la suite. Il n'y eut pas de trou noir, pas de sensation d'écoulement du temps, aucune discontinuité. Rien qu'un clic, très sonore, comme si Jacobs avait claqué des doigts juste à côté de mon oreille, alors qu'il se tenait au moins à 1,50 m de moi. Or, subitement, au lieu d'être debout à côté du truc qui n'était pas un ampli Marshall, voilà qu'il était penché au-dessus de moi. Le petit boîtier blanc avait disparu et quelque chose n'allait pas dans mon cerveau. Il était bloqué. « Il s'est passé, » j'ai dit. « Il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé. Quelque chose. » Quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Arrête ça, veux-tu? Tu vas bien. Mais il n'avait pas l'air sûr de lui. Il avait l'air effrayé. Le casque audio aussi avait disparu. J'ai essayé de me lever, mais j'ai brandi une main en l'air à la place, comme un écolier qui connaît la réponse et meurt d'envie de la donner à la maîtresse. « Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Il s'est passé quelque chose. » Il me gifla. Fort. J'ai sursauté et je serais tombé à la renverse si ma chaise n'avait pas été placée tout contre le bord en métal de son établi. J'ai baissé la main, cessé de répéter et me suis contenté de le regarder. « Comment t'appelles-tu ? » « Je vais dire, il s'est passé quelque chose, » ai-je pensé. « Prénom, il s'est passé, non, quelque chose. » « Mais non, » j'ai dit. « Jamie Martin. » « Deuxième prénom, Edward. » « Comment je m'appelle ?»« Charles Jacobs. » »« Charles Daniel Jacobs. » Il a sorti le petit flacon d'héroïne et me l'a donné. Je l'ai regardé, puis le lui ai rendu. « Non, c'est bon. » Vous venez de m'en donner. Vraiment ? Il me montra l'heure à son poignet. Nous étions arrivés là en milieu de matinée. Or, il était maintenant 14h15. C'est impossible ! Il parut intéressé. Et pourquoi donc ? Parce que aucun temps n'est passé, sauf que... Si, j'imagine que si. Non ? Si. Et nous avons longuement bavardé. De quoi ? Ton père, tes frères, le décès de ta mère et de Claire. Qu'est-ce que j'ai dit sur Claire? Qu'elle était mariée à un homme violent et qu'elle l'a caché pendant 3 ans parce qu'elle avait honte. Elle a fini par en parler à ton frère Andy et... Il s'appelait Paul Overton, dis-je. Il enseignait l'anglais dans une prestigieuse école préparatoire de New Hampshire. Un jour, Andy s'est pointé là-bas en voiture et a attendu sur le parking. Et quand Overton est sorti, Andy lui a cassé la gueule. On aimait tous Claire. Tout le monde l'aimait. Et j'imagine que même Paul Overton l'aimait à sa manière. mais Andy et elle étaient les aînés et ils étaient particulièrement proches. C'est ce que je vous ai raconté ? Presque mot pour mot, Andy lui a dit « Si tu reposes la main sur elle, je te tue. » Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre ? Que Claire l'a quittée, qu'elle a obtenu une ordonnance de protection et qu'elle a demandé le divorce. Qu'elle a ensuite déménagé à North Conway, où elle a trouvé un autre poste d'institutrice. Le divorce était prononcé depuis 6 mois quand Overton s'est rendu là-bas en voiture. Il est entré dans sa salle de classe pendant qu'elle corrigeait des copies après l'école, et il lui a tiré une balle dans la tête. Puis il s'est suicidé. Oui, Claire morte. Son enterrement fut la dernière fois que nous, ce qu'il restait de ma grande, bruyante et généralement joyeuse famille, nous sommes retrouvés ensemble. Une belle journée d'octobre ensoleillée. Quand tout a été fini, je suis remonté dans ma voiture et je suis parti pour la Floride, simplement parce que je n'y avais jamais été. 1 mois plus tard, je jouais avec les Patsy Cline's Lipstick à Jacksonville. Le prix de l'essence y était élevé, le climat généralement chaud. Alors j'ai revendu ma voiture pour m'acheter une Kawasaki. Mauvaise décision, comme la suite l'a prouvé. Il y avait un petit frigo dans un coin de la pièce. Charles Jacobs l'ouvrit et m'apporta une bouteille de jus de pomme. Je la bus en 5 longues gorgées. « Essaye de te lever. » Je me suis levé de ma chaise et j'ai chancelé. Jacobs m'a rattrapé par le coude et m'a redressé. « Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, marche à travers la pièce. » J'ai d'abord titubé comme un alcoolique, mais quand je suis revenu vers lui, ça allait déjà mieux. Droit dans mes bottes. « Bien, dit-il, aucun signe de boiterie. Retournons au champ de foire. Il faut que tu te reposes. » « Mais il s'est passé quelque chose, j'ai dit. Quoi ? » « Une bénigne restructuration de tes ondes cérébrales, je pense. »« Vous pensez ? » ?»« Oui. » »« Mais vous n'en êtes pas sûr. » Il y réfléchit pendant ce qui me sembla un long moment, mais qui ne dura sûrement pas plus de quelques secondes. Il me fallut 1 semaine avant de retrouver une perception correcte du temps. Enfin, il me dit « J'ai rencontré pas mal de difficultés pour me procurer certains livres importants. Il me reste donc beaucoup d'études à faire, ce qui implique parfois de prendre de petits risques, uniquement des risques acceptables. Tu te sens bien, n'est-ce pas ?» Il était selon moi trop tôt pour le dire, mais je n'ai pas relevé. Après tout, ce qui était fait était fait. « Allez, Jamie, une longue soirée de travail m'attend et j'ai besoin de me reposer, moi aussi. » Arrivé devant son bounder, j'ai voulu ouvrir la portière et une fois de plus, j'ai levé la main en l'air à la place. Mon coude s'est bloqué, comme si mon articulation s'était changée en fer. Pendant un instant terrifiant, j'ai cru que mon bras ne redescendrait jamais, que je passerais tout bonnement le restant de ma vie avec une main en l'air comme pour dire « Maîtresse, maîtresse, moi, moi !» Et puis mon coude s'est débloqué. J'ai baissé le bras, ouvert la porte et je suis entré. « Ça passera, me dit-il. » « Comment vous pouvez le savoir si vous savez même pas ce que vous m'avez fait ?»« Parce que j'ai déjà vu ça avant. » Lorsqu'il fut garé à sa place habituelle sur le champ de foire, il me mit à nouveau le petit flacon d'héroïne sous le nez. « Tu peux le prendre si tu veux. » Mais je ne l'ai pas pris. Ça me faisait le même effet que de regarder un banana split juste après avoir terminé le 9e plat d'un dîner de Thanksgiving. Cette gourmandise, bourrée de sucre, est un délice, et en d'autres circonstances, tu sais que tu l'aurais englouti goulûment, mais pas après un copieux repas. Après un copieux repas, un banana split cesse d'être un objet de désir pour redevenir un simple objet. Peut-être plus tard, j'ai dit. Mais plus tard n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, alors que ce presque vieux mec affligé d'un soupçon d'arthrite vous narre ses jours passés, je sais qu'il n'arrivera jamais. Jacobs m'a guéri, mais c'était une guérison dangereuse, et il le savait. Lorsqu'on parle de risques acceptables, la question est toujours de savoir « acceptable pour qui ?» Charlie Jacobs était un bon samaritain. C'était aussi un savant à moitié fou, et ce jour-là, dans la carrosserie auto abandonnée, j'étais son plus récent cobaye. Il aurait pu me tuer, et quelquefois, souvent en fait, je regrette qu'il ne l'ait pas fait. J'ai dormi le restant de l'après-midi. Quand je me suis réveillé, je me sentais comme la version antérieure de Jamie Martin, lucide et plein de vitalité. Je me suis redressé en balançant les jambes hors du lit et je l'ai regardé mettre ses habits de scène. « Dites-moi un truc, » je lui ai dit. « Si c'est à propos de notre petite excursion dans Tulsa West, j'aimerais mieux en rester là. Attendons de voir si ton état se maintient ou si tu fais une rechute. Satanée cravate, je n'arrive jamais à la nouer correctement et Briscoe est un incapable. » Briscoe était son assistant, le petit gars qui faisait le pitre et distrayait l'attention du public quand elle avait besoin d'être distraite. « Bougez pas, j'ai dit. Vous vous y prenez n'importe comment. Laissez-moi faire. » Je me suis placé derrière lui, j'ai passé les bras autour de son cou et je lui ai fait son nœud de cravate. Mes mains ne tremblaient plus. C'était facile. Comme mes jambes, une fois l'effet de l'électrochoc dissipé, droites dans leurs bottes. « Où as-tu appris à faire ça ?» Après mon accident, quand j'ai pu enfin me tenir debout et jouer pendant 2 heures sans m'écrouler, j'ai bossé avec un groupe qui s'appelait les Undertakers. Pas un super groupe. Aucun des groupes où j'étais le meilleur musicien n'était un super groupe. On portait des redingotes, des chapeaux claques et des cravates. Le batteur et le bassiste se sont embrouillés pour une fille et le groupe s'est séparé. Mais j'en suis reparti avec un nouveau talent. Eh bien, merci. Que voulais-tu savoir ? À propos de votre spectacle, vous prenez seulement les femmes en photo. Il me semble que vous perdez 50% de la clientèle. Il sourit de son sourire de gamin, celui qu'il avait quand il menait le bal dans le sous-sol du presbytère. Quand j'ai inventé mon appareil photo, qui est en fait un combiné générateur-projecteur, comme tu le sais désormais, j'ai bien essayé de photographier les hommes et les femmes. C'était dans un petit parc d'attractions de bord de mer en Caroline du Nord, Joyland. Fermé aujourd'hui, mais un endroit charmant, Jamie. Je m'y plaisais énormément. À l'époque où je travaillais sur Joyland Avenue, il y avait la galerie des voyous à côté de la maison au miroir de Mysterio. On y trouvait des personnages en carton grandeur nature avec un trou à la place du visage. Il y avait un pirate, un gangster avec un automatique, une Calamity Jane pas commode avec un pistolet mitrailleur et le Joker et Catwoman de la bande dessinée Batman. Les gens passaient leur tête dans les trous et les jeunes photographes ambulantes du parc, on les appelait les Hollywood Girls, les prenaient en photo. C'est ça qui vous a donné l'idée ? Oui. À l'époque, mon nom de scène était Mr. Electrical, en hommage à Ray Bradbury. Mais je doute qu'aucun plouc l'ait compris. Et même si j'avais déjà inventé un prototype de mon projecteur actuel, il ne m'était jamais venu à l'esprit de l'intégrer dans mon spectacle. J'utilisais surtout la bobine Tesla et un générateur d'étincelles que j'avais appelé l'échelle de Jacob. Je vous avais fait la démonstration d'une échelle de Jacob en modèle réduit quand j'étais votre pasteur, Jamie. J'avais utilisé des produits chimiques pour que les étincelles changent de couleur, tu t'en souviens ? Je m'en souvenais, oui. La galerie des voyous m'a ouvert les yeux sur les possibilités qu'offrait mon projecteur et j'ai créé les portraits à la foudre. Rien qu'un numéro de cirque, me diras-tu. Mais ça m'a aussi aidé à faire progresser mes recherches et ça continue de m'aider. Quand j'étais à Joyland, j'avais en toile de fond un homme élégant en costume-cravate, en plus de la beauté en robe de bal. Quelques hommes acceptaient de se prêter au jeu, mais étonnamment peu. Je pense que leurs rustos de copains se moquaient d'eux quand ils les voyaient sur leur 31 comme ça. Les femmes ne se moquent jamais, car les femmes adorent être sur leur 31. Si possible, sur leur 32. Et quand elles voient la démonstration, elles accourent. Vous faites ça depuis combien de temps ? Il calcula dans sa tête, un œil à demi fermé. Puis il ouvrit grand les deux, dans une expression de surprise. « Ça va bientôt faire 15 ans. » J'ai secoué la tête en souriant. « Vous êtes passé de pasteur à bonimenteur. » Ces mots à peine sortis de ma bouche, j'ai réalisé que c'était vache comme truc à dire, mais l'idée de mon ancien pasteur rameutant les badauds m'hallucinait toujours autant. Il ne s'en montra pas offensé, cependant. Il admira simplement une dernière fois son nœud de cravate impeccable dans le miroir et me fit un clin d'œil. « Aucune différence, me dit-il. Le but est toujours de convaincre les ploucs. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, je m'en vais vendre un peu de foudre et d'éclairs. » Il laissa l'héroïne sur la petite table au milieu du bounder. J'y jetais de temps à autre quelques coups d'œil. Je la pris même dans ma main une fois, mais je ne ressentais aucune compulsion à l'utiliser. Pour vous dire la vérité, je ne comprends pas comment j'avais pu foutre en l'air tant d'années de ma vie avec ça. Tout ce besoin fou me faisait l'effet d'un rêve. Je me suis demandé si tout le monde ressentait ça une fois que l'envie était passée. Je n'en savais rien. Je n'en sais toujours rien. Un beau jour, Briscoe mit les bouts, comme le font souvent les saisonniers, et quand j'ai demandé à Jacobs si je pouvais avoir le boulot, il accepta aussitôt. En soi, ça ne consistait pas à grand-chose, mais ça lui évitait d'avoir à chercher le péquenaud du coin qui voudrait bien trimballer l'appareil photo sur scène et le remballer, lui passer son chapeau haut de forme et faire semblant de se faire électrocuter. Il suggéra même que je joue quelques accords de Gibson pendant le spectacle. Quelque chose qui ferait monter le suspense, m'indiqua-t-il. Quelque chose qui laisse vraiment entendre que la fille va se faire griller. Ça, c'était pas difficile. Alterner le La mineur et le Mi, les accords de base de House of the Rising Sun et de Spring Hill Mining Disaster, pour ceux que ça intéresse, suggère toujours une tragédie imminente. Ça me plaisait bien, même si je trouvais qu'un roulement de tambour lent et sonore aurait ajouté un petit quelque chose. « Ne t'investis pas trop dans le boulot, » me conseilla Jacobs. « Je compte repartir. » Quand la foire se termine, le taux de fréquentation du Bells tombe au fond des toilettes. « Repartir où ?»« Je ne sais pas encore, mais j'ai pris l'habitude de voyager seul. » Il me tapa sur l'épaule. « Juste pour que tu saches. » Je le savais déjà. Depuis la mort de sa femme et de son fils, Charlie Jacobs jouait strictement en solo. Ses visites à son atelier se firent de plus en plus brèves. Il commença à rapporter du matériel et à le stocker dans la petite remorque qu'il attellerait à son bounder quand il plierait bagages. Les amplis, qui n'étaient pas des amplis, ne firent pas partie du lot, de même que deux des quatre longs caissons métalliques. J'avais dans l'idée qu'il souhaitait prendre un nouveau départ, peu importe où il atterrirait. Comme s'il était arrivé au bout d'un chemin et qu'il comptait en essayer un autre. Moi, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie maintenant, que j'étais clean et que je ne boitais plus, ça aussi. Mais partir en vadrouille avec le roi de la haute tension n'était pas au programme. Je lui étais reconnaissant, mais étant donné que je n'arrivais plus vraiment à me rappeler les horreurs de la dépendance à l'héroïne, pas plus j'ose imaginer qu'une femme qui a eu un bébé n'arrive à se rappeler les douleurs de l'accouchement, je n'étais pas aussi reconnaissant que vous pourriez le penser. Et puis, il me faisait peur. Son électricité secrète aussi. Il en parlait de façon extravagante, secret de l'univers, voie vers la connaissance ultime. Mais il n'avait pas plus d'idée de ce que c'était qu'un bambin qui trouve un flingue dans le tiroir de papa. En parlant de tiroir, ouais, j'ai fouiné. J'avais trouvé un album rempli de photos de Patsy, Maury et deux trois ensemble. Les pages étaient toutes cornées et la reliure toute molle. Pas besoin d'être Sam Spade pour comprendre qu'il le feuilletait souvent. Mais jamais je ne l'ai surpris. L'album était secret, comme son électricité. À l'aube du 3 octobre, juste avant que la foire de Tulsa ne ferme ses portes jusqu'à l'année suivante, je fus victime d'un autre effet secondaire de l'électrochoc que Jacobs m'avait administré au cerveau. Il me payait pour mes services, beaucoup plus que ce que les 10 services méritaient vraiment, et je louais une chambre à la semaine à 4 pâtés de maison du champ de foire. Il était clair qu'il voulait être seul, peu importe l'affection qu'il me portait, si effectivement il me portait de l'affection, et j'avais pressenti qu'il était grand temps qu'il récupère son lit. Je m'étais couché à minuit, une heure environ après avoir plié la dernière représentation de la soirée, et je m'étais endormi aussitôt, comme je le faisais presque toujours. Maintenant que je n'avais plus de cam dans l'organisme, mon sommeil était bon, sauf que cette nuit-là, je me suis réveillé 2 heures plus tard, dans la cour envahie de mauvaises herbes de la maison de location. Un croissant de lune glacé flottait dans le ciel. En dessous se tenait un Jamie Martin nu, à l'exception d'une chaussette, avec une lanière de chambre à air nouée autour du biceps. Je ne sais absolument pas où je l'avais dégoté, mais au-dessus du garrot, les vaisseaux sanguins saillaient, chacun d'eux parfait pour un shoot. Sous le garrot, mon avant-bras était blanc, froid et complètement ankylosé. « Il s'est passé quelque chose, » j'ai dit. J'avais une fourchette à la main. Dieu sait d'où je la tenais, celle-là aussi. et je n'arrêtais pas de la planter dans le haut de mon bras gonflé. Du sang perlait d'au moins une douzaine de petits trous. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Homer, il s'est passé quelque chose. Quelque chose, quelque chose. Je me suis intimé d'arrêter, mais au début, je n'ai pas pu. Je n'étais pas exactement hors de contrôle, mais j'étais hors de mon contrôle. J'ai pensé au Jésus électrique lancé sur son rail invisible à travers le lac de la paix. J'étais comme lui. Quelque chose. Coup de fourchette. Il s'est passé quelque chose. Coup de fourchette. Coup de fourchette. Quelque chose. J'ai tiré la langue et me la suis mordue. Le clic a retenti à nouveau, non pas près de mon oreille cette fois-ci, mais enfoui tout au fond de ma tête. Les propos et coups de fourchette incontrôlés ont instantanément cessé. La fourchette m'est tombée de la main. J'ai défait le garrot improvisé et mon avant-bras s'est mis à picoter tandis que le sang se remettait à circuler. Frissonnant, j'ai levé les yeux vers la lune, me demandant qui ou quoi avait pris possession de mon corps. Parce que j'avais clairement été possédé. À mon retour dans ma chambre, soulagé que personne ne m'ait surpris la zigounette à l'air, je me suis rendu compte que j'avais marché sur du verre et que j'avais une vilaine coupure au pied. Ça aurait dû me réveiller, mais non. Pourquoi ? Parce que je ne dormais pas. J'en étais certain. Quelque chose m'avait fait sortir de mon corps et avait pris les commandes, me pilotant telle une automobile. J'ai lavé mon pied et je suis retourné me coucher. Je n'en ai jamais parlé à Jacobs. À quoi bon ? Il m'aurait fait remarquer qu'une entaille au pied, lors d'une petite balade nocturne, était un tout petit prix à payer pour un sevrage miracle de l'héroïne. Et il aurait eu raison. Quand même, il s'est passé quelque chose. Cette année-là, le jour de fermeture de la foire de Tulsa tombait le 10 octobre. L'après-midi du 10, je suis arrivé au Bounder de Jacobs vers 17h30, avec largement assez de temps devant moi pour accorder ma guitare et lui faire son nœud de cravate. C'était devenu une tradition. Pendant que je m'y attelais, on frappa. Charlie se dirigea vers la porte en fronçant les sourcils. Il n'aimait pas être dérangé avant ses représentations. Et il en avait 6 à donner ce soir-là, dont la dernière programmée à minuit. Il ouvrit la porte en disant « Si ce n'est pas important, j'aimerais que vous repassiez plus tôt. » Et c'est là qu'un fermier en salopette et casquette Case, un Okie Furax, ou je ne m'y connais pas en Okies, lui a mis son poing dans la figure. Jacobs chancela, s'en mêla les pinceaux et s'écroula, évitant de justesse de se cogner la tête contre la table, ce qui aurait pu l'assommer. Notre visiteur déboula à l'intérieur du Bounder, se pencha et attrapa Jacobs par les revers. Il était à peu près de son âge, mais nettement plus costaud. Et la rage l'étouffait. J'ai pensé, voilà qui pourrait mal tourner. Évidemment, ça tournait déjà mal, mais je pensais à ce qui se termine par un séjour prolongé à l'hôpital. « C'est votre faute si la police l'a attrapé !» hurla-t-il. « Oiseau de malheur ! Elle va avoir un casier qui va la suivre toute sa vie, comme une boîte de conserve accrochée à la queue d'un chien !» Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé une casserole vide sur l'évier et lui en ai asséné un coup sur le côté du crâne. Pas violemment, mais le Okie lâcha Jacobs et me regarda avec stupéfaction. Des larmes commencèrent à rouler dans les sillons qui bordaient son pif considérable. Charlie détala à 4 pattes. Il saignait de la lèvre inférieure, entaillée en 2 endroits. « Pourquoi vous vous en prenez pas à un grand comme vous ?» j'ai demandé. Discours manquant singulièrement de raison, je sais, mais quand on se retrouve dans ce genre de confrontation, c'est fou ce que les réflexes de cour de récré reviennent au galop. « Elle doit aller au tribunal !» me cria-t-il avec son accent de banjo désaccordé. « Et c'est la faute à ce zozio de malheur ! Ce zozio de malheur qui détale là comme un foutu lapin !» Il a dit « Zozio de malheur, je vous jure !» J'ai posé la casserole sur la cuisinière et je lui ai montré mes mains vides. J'ai parlé de ma voix la plus apaisante. « Je ne sais pas de qui vous parlez, je suis sûr que... » J'ai failli dire, Charles. Dan ne le sait pas non plus. « ma fille, Cathy, Cathy Morse !» Il lui a dit que la photo était gratuite quand elle est montée sur scène, mais c'était pas gratuit. Cette photo était chère, très chère. Elle lui a foutu sa vie en l'air. J'ai passé un bras prudent autour de ses épaules. J'ai pensé qu'il risquait de m'en coller une, mais maintenant que sa première fureur était passée, il avait seulement l'air triste et perdu. Sortons, j'ai dit. On va se trouver un banc à l'ombre et vous pourrez tout me raconter. Zedki qui ? J'étais sur le point de dire l'assistant de M. Jacobs, mais ça manquait singulièrement de poids. Mes années dans le milieu de la musique ont surgi à ma rescousse. Son agent. Ah ouais ? Vous pouvez me dédommager ? Parce que je veux être dédommagé. Rien que les honoraires d'avocat sont pas loin de m'achever. Il pointa un doigt vers Jacobs. À cause de vous, satané oiseau de malheur.
Je ne vois pas.
Charlie essuya son menton sanglant.
Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, monsieur Morse, je vous assure.
J'avais réussi à entraîner monsieur Morse jusqu'à la porte et je ne voulais pas perdre le terrain que j'avais gagné. Allons discuter de tout ça à l'air libre. Il me laissa le conduire à l'extérieur. Au fond du parking des employés, il y avait une buvette avec des tables rouillées ombragées par des parasols en toile miteux. J'ai acheté un grand coca et le lui ai tendu. Il en a d'abord laissé déborder un peu sur la table, puis a descendu la moitié du gobelet en carton à grande gorgée. Il l'a reposé et a appuyé sa paume sur son front.
« J'oublie toujours qu'il ne faut pas boire une boisson si froide si vite, » dit-il. « Ça vous enfonce un clou dans le crâne, trouvez pas ?»«
Si, » répondis-je, me revoyant nu sous un croissant de lune, piquant mon bras aux veines saillantes avec les dents d'une fourchette. Il s'est passé quelque chose, pour moi et, semble-t-il, pour Cathy Morse aussi. « Dites-moi, quel est le problème ?»«
Cette photo qu'il lui a donnée, c'est ça le foutu problème. Bon Dieu, elle se promenait avec presque partout. Ses copines ont commencé à se moquer, mais elles s'en fichaient. Elle disait aux gens, « C'est à ça que je ressemble, en vrai. » J'ai essayé de lui ôter cette idée de la tête, un soir, et la mère m'a dit d'arrêter, que ça se passerait tout seul. Et on y a bien cru. Elle a laissé la photo dans sa chambre, je sais pas, moi, 2, 3 jours. Elle est allée à l'école de coiffure sans. On a pensé que c'était terminé. »
Ça ne l'était pas. Le 7 octobre, 3 jours auparavant, elle était entrée dans la bijouterie J. David de Broken Arrow, une ville de la banlieue sud-est de Tulsa. Elle transportait un cabas. Les deux vendeurs l'avaient reconnue, car elle était déjà venue plusieurs fois depuis son instant de gloire sur les planches de Jacobs. L'un d'eux lui avait demandé s'il pouvait l'aider. Cathy était passée devant lui sans un mot et s'était dirigée droit sur le présentoir où les babioles les plus chères étaient exposées. Elle avait sorti un marteau de son cabas et avait fracassé la vitrine. Ignorant le hurlement de l'alarme et 2 entailles suffisamment profondes qui nécessiteraient plus tard des points de suture, elle gardera des cicatrices, gémit son père. Elle avait passé la main dans le présentoir et en avait extrait une paire de boucles d'oreilles en diamant. « Ces boucles sont à moi, » avait-elle dit. « Elles vont avec ma robe. » Le père Morse avait tout juste terminé son histoire que 2 gaillards avec sécurité imprimés sur leur t-shirt noir appliquèrent. « Un problème, messieurs ?» demanda l'un d'eux. « Non, » dis-je. C'était vrai. Raconter son histoire lui avait permis de dissiper sa colère, ce qui était bien. Ça l'avait aussi vidé, d'une certaine manière, et ça, c'était moins bien. Monsieur Morse allait partir. Il se leva, les mains crispées sur son gobelet de coca. Le sang de Charlie Jacobs avait commencé à sécher sur ses phalanges. Il le regarda comme s'il ne savait pas d'où il venait.
« Lui mettre les flics aux trousses, il changera rien, pas vrai ? » demanda-t-il. « Tout ce qu'il a fait, c'est prendre sa photo, qui diront. C'était même gratuit, que diable !»«
Monsieur, s'il vous plaît, » dit l'un des types de la sécurité, « si vous voulez visiter la foire, c'est avec plaisir que je vous tamponne la main. »
« Non, monsieur, » dit-il. « Ma famille en a soupé de cette foire. Je rentre chez moi. »
Il commença à s'éloigner, puis se retourna.
« C'est déjà arrivé ? Il a déjà fait perdre la boule à d'autres comme il a fait perdre la boule à McCarthy ?»«
Il s'est passé quelque chose, » je pensais. « Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. » « Non, » lui dis-je. « Jamais. » »«
Vous diriez ça même si c'était déjà arrivé, vu que vous êtes son agent et tout. »
Et il s'en alla, la tête basse, sans se retourner. Dans le bain d'eau, Jacobs avait changé sa chemise tachée de sang et il tenait un torchon rempli de glace sur sa lèvre enflée. Il écouta pendant que je lui répétais ce que Morse avait raconté, puis me dit « Tu veux bien me remettre ma cravate ? On est déjà en retard. »« Hé là, lui dis-je, vous devez la guérir, comme vous avez fait pour moi, avec le casque audio. » Il me lança un regard qui frisait dangereusement le mépris. « Tu penses vraiment que papa chéri me laissera l'approcher à moins d'un kilomètre ? En plus, son problème à elle, sa compulsion, finira par passer toute seule. Elle s'en sortira. N'importe quel avocat digne de ce nom sera capable de convaincre le juge qu'elle n'était pas dans son état normal quand elle a fait ça. Elle s'en tirera avec une tape sur la main. Tout ça n'a rien de vraiment nouveau pour vous, si ?» Il haussa les épaules, toujours tournées vers moi, mais évitant de croiser mon regard. « Il y a bien eu des effets secondaires de temps à autre, oui, mais rien d'aussi spectaculaire que la tentative de cambriolage de Mademoiselle Morse. Vous êtes autodidacte, c'est ça ? En fait, tous vos clients sont des cobayes. Sauf qu'ils ne le savent pas. J'ai été votre cobaye. Tu vas mieux, oui ou non ?
Oui.
Exception faite, des coups de fourchette nocturnes, cela dit. Alors s'il te plaît, fais-moi mon nœud de cravate. » J'ai failli ne pas le faire. J'étais furieux contre lui. Pour couronner le tout, il s'était débiné en rameutant la sécurité, mais je lui étais redevable. Il m'avait sauvé la vie, ce qui était bien. J'étais clean, ce qui était encore mieux. Alors, j'ai noué sa cravate. On a donné la représentation, on en a donné 6 en réalité. La foule se répandit en « Ah !» quand le feu d'artifice de clôture éclata. Mais ce n'était rien en comparaison de leur enthousiasme quand Dan, le type au portrait à la foudre, leur servit sa magie. Et chaque fois qu'une jeune fille contemplait rêveusement son image sur la toile de fond, je me demandais laquelle, pendant que j'alternais les la mineur et les mi, découvrirait qu'elle y avait laissé un peu de sa raison. Une enveloppe sous ma porte, encore du déjà-vu, comme aurait dit Yogi Berra, sauf que cette fois-ci, j'avais pas pissé au lit. Ma jambe retapée en salle d'opération ne me faisait pas souffrir. J'avais pas chopé la grippe et le manque ne me faisait pas danser la danse de Saint-Guy. Je me suis penché pour la ramasser et je l'ai ouverte. Mon 5e emploi n'avait jamais donné dans les adieux sirupeux, je lui accorde ça. L'enveloppe contenait une pochette de billets de train Amtrak fixée avec un trombone à une feuille de papier à lettres. Y était noté un nom et une adresse à Netherland, dans le Colorado. En dessous, Jacobs avait gribouillé 3 phrases. « Il te donnera du travail si tu en veux. Il me doit une faveur. Merci pour les nœuds de cravate. CDJ. » J'ai ouvert la pochette Amtrak. Le billet était un aller simple Tulsa-Denver, à bord du Mountain Express. Je l'ai regardé longuement, pensant que je pourrais peut-être me le faire rembourser, ou m'en servir et m'arrêter d'abord à la bourse d'échange de musiciens de Denver. Sauf qu'il allait me falloir du temps avant de retrouver le rythme. Mes doigts s'étaient ramollis, j'étais rouillé du point de vue technique. Il y avait aussi l'aspect drogue à prendre en considération. Sur la route, la drogue est partout. La magie des portraits à la foudre s'estompait au bout de 2 ans environ, avait dit Jacobs. Comment savoir si ce ne serait pas pareil pour ma cure de désintoxication ? Comment pouvais-je le savoir quand Jacobs lui-même ne le savait pas ? Cet après-midi-là, je pris un taxi qui m'emmena à l'atelier de carrosserie auto qu'il avait loué dans Tulsa West. Celui-ci était abandonné et totalement vide. Il ne restait pas le moindre petit bout de fil électrique sur le sol taché d'huile. « Il s'est passé quelque chose ici, » me suis-je dit. La question était, si c'était à refaire, serais-je prêt à remettre ce casque audio trafiqué sur mes oreilles ? J'ai décidé que oui. Et sans que je parvienne à me l'expliquer vraiment, cela m'aida à prendre ma décision pour le billet de train. À Denver, je suis monté dans le bus pour Netherland, petite ville haut perchée sur le versant ouest des Rocheuses. Là-bas, j'ai rencontré Hugh Yates et recommencé ma vie pour la 3e fois.